Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaboriau. Adaptation Henri Wetzmann.
Aujourd'hui, sixième épisode, Laurence Courtois.
Résumé du cinquième épisode.
Le coq est convaincu que la comtesse de Trémorel a été assassinée.
Chez elle. Et que son corps a été traîné et déposé
au bord de la Seine.
Le juge d'instruction, Donny, a obtenu des demi-aveux de Larry Paille, qui avoue avoir vu l'un des assassins.
Gaspin, le jardinier, interrogé à son tour, reste muet.
Mais on a retrouvé en sondant le fleuve
une veste tachée de sang lui ayant appartenu.
Dans les rues d'Orcival.
Voyez-vous, le coq, j'habite à deux pas. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous passerons d'abord chez mon ami Courtois. Qu'en pensez-vous, Gendron ?
Mais bien entendu.
J'allais vous le proposer, Plantard.
Merci. S'il était survenu chez lui un événement grave, certainement, je serai prévenu à cette heure. Peut-être sa fille Laurence a-t-elle écrit simplement qu'elle est malade ou même indisposée. Madame Courtois, qui est la meilleure des femmes, voyez-vous, elle se monte la tête pour un rien. Elle aura voulu envoyer son mari chercher leur fille immédiatement. J'espère que ce n'est qu'une fausse alerte. Tiens, mais c'est Baptiste qui court vers nous.
Oh, quelle histoire, monsieur! Je courais vous chercher.
Allez, dis vite, mon bras, qu'est-il arrivé?
C'est la lettre, monsieur.
La lettre.
Quand nous sommes arrivés à la maison, monsieur a pris la lettre des mains de madame qui pleurait toujours. Il l'a lu en tremblant et tout à coup, plouf, il est tombé raide par terre.
Mort ?
Non, non, mais une sérieuse attaque. Tout le monde perdait la tête. Moi, je cours chercher un médecin. Ou vous, monsieur Gendron,
oui.
Que je savais au château.
Oui, oui.
Ou le docteur d'ici.
Oui, oui, oui.
Ou le pharmacien. Enfin, quelqu'un.
Oui, oui, oui.
Quand au coin de la rue, je rencontre Reblot.
Le rebouteux ?
Eh oui, je lui dis de me suivre et nous regagnons la maison à toute allure. Une fois sur place, il a saigné monsieur le maire aux deux bras.
Aux deux bras ?
Oui, et quelques instants après, monsieur a respiré. Il a ouvert les yeux. Et en pleurant, il a demandé à vous voir, monsieur le juge de paix.
Vitrier ! Remplace les Glasgow en mise au miroir !
Nous sommes arrivés. Baptiste, allez porter le sac de monsieur le coq chez moi.
Tout de suite, monsieur.
Dans la maison du maire.
Oh, quel malheur, madame.
Oh, malheur, quel malheur.
Courageuse, madame.
Eh bien, mon ami, que vient-on de m'apprendre ?
Ah, mon ami, oui, quel malheur ! Ma fille ! Ma fille chérie ! Laurence !
Bien, oui.
Laurence est morte.
Oh, quoi ? Laurence !
Elle s'est tuée.
Mes pauvres amis.
Oh, c'est affreux, Plantin.
Affreux.
Épouvantable. Si encore elle était morte ici, au milieu des siens, entourée de nos soins. Mon désespoir, c'est infini. Et cependant très faible en comparaison de celui qui me tue.
Laurence.
Si vous saviez, si vous saviez.
Je suis votre meilleur ami, Courtois. Parlez, confiez-vous à moi, dites tout.
Tenez, lisez sa dernière lettre.
Sa dernière lettre. Oh, chers parents aimés, pardonnez. Pardonnez, je vous en conjure, à votre malheureuse fille. Hélas, j'ai été bien coupable, mais le châtiment est terrible. Oh mon Dieu, en un jour d'égarement, entraîné par une passion fatale, j'ai tout oublié. Oh, l'exemple. Ah. Lisez, docteur, lisez.
Oui. L'exemple et les conseils de ma mère si bonne, les devoirs les plus sacrés et votre tendresse, je n'ai pas su résister à celui qui pleurait à mes genoux en me jurant un amour éternel et qui maintenant m'abandonne. C'est fini. Je suis perdu. Je suis déshonoré. Je suis enceinte. Oh, chers parents, ne me maudissez pas. Quand cette lettre vous sera remise, j'aurai cessé d'exister.
Oh, mon Dieu,
madame,
mon
madame, Dieu, je vous en prie, madame. Le coq, poursuivez. Madame.
J'aurais quitté la maison de ma tante et je serais allé loin, bien loin où personne ne pourra me reconnaître. Là, je saurais mettre un terme à mes misères et à mon désespoir.
Adieu donc, parents aimés. Adieu. Que ne puis-je une dernière fois vous demander pardon à genoux. Que Lucille, ma petite sœur, ne sache jamais à vous la dernière prière. Et la suprême pensée de votre pauvre Laurence.
Oh, Laurence.
Soyez courageuse, oh, madame Courtois, je vous en prie. Soyez courageuse.
Oui,
madame Courtois.
Misérable.
Misérable, ce vil séducteur qui s'est glissé dans l'ombre pour me ravir mon plus cher trésor, ma fille bien-aimée. Hélas. Elle ne savait rien de la vie. Il lui a dit de ces paroles d'amour qui font battre les cœurs de toutes les jeunes filles. Elle a eu foi en lui et maintenant, il l'abandonne. Oh. Oh, si je connaissais, si je savais. Mais qu'est-ce que je dis ? Non ? On n'abandonne pas ainsi une belle et noble jeune fille, richement dotée, sans y être contraint. L'amour passe, la cupidité reste.
Très juste.
L'infâme suborneur n'était pas libre. Il était marié. Et qui connaissait-elle dans cette bourgade, si pauvre en distraction? Quels gens voyait-elle? Ceux que nous recevions ou ceux que nous rencontrions aux rares réceptions de la marquise de la Nascole? Et qui recevions-nous? Le comte de Trémorel. Ce ne peut être que lui. C'est lui qui a tué ma fille. Ah, j'étais donc frappé d'aveuglement.
Oh, je t'en supplie, Robert.
Ah oui. J'étais frappé d'aveuglement, car je le recevais chez moi, cet homme. Je l'appelais mon ami. Ah, ne pouvoir se venger. Je ne pourrais pas le tuer de mes mains.
Robert,
il est mort, tombé sous les coups d'assassins moins vils que lui.
Oh, mon pauvre ami, mon pauvre Courtois, il est pris de crise.
Oh, et ne savoir ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas affreux? Oh, quelle mort aura-t-elle choisie? Oh, ma fille, ma petite fille.
Cessez, Courtois, cessez.
Oh, vous souvenez-vous, docteur? Et vous, Planta?
Oui.
De ses beaux cheveux bouclés autour de son front, de ses grands yeux bleus, de son sourire.
Son sourire.
Et sa voix.
Sa voix.
J'aimais tant sa voix. Et sa bouche. Sa bouche si fraîche qui me donnait sur les joues de bons gros baisers sonores.
Oh, calmez-vous. Calmez-vous, Courtois. Oh,
morte. Morte. Perdue. Oui. Et se dire que son corps gît, peut-être abandonné dans les vases de quelques rivières.
Oh non,
rappelez-vous, Planta, rappelez-vous le cadavre de la comtesse de Trémorel.
Il ne faut pas, Courtois, voyons.
Oh, c'est la femme tue. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, ma fille. Oh non, c'était pas possible. C'était pas possible.
Il ne faut pas qu'il reste ici plus longtemps, il faut qu'il se couche. Oui, docteur. Oui, une fièvre cérébrale après le pareil ébranlement ne me surprendrait pas. Je vais parler à Madame Courtois. Je vais essayer de le calmer. Madame, madame.
Oh, docteur. Oh, docteur, c'est de ma faute. C'est ma très grande faute.
Mais non, madame.
Oh, une mère doit pouvoir lire dans le cœur de sa fille. Et je n'ai pas su deviner le secret de Laurence. Je n'ai pas été une...
Mais ne dites pas cela, madame. Non. Mais non, vous avez été, vous êtes la meilleure des mères.
Oh, je suis tellement
mais
coupable.
Mais si, comme vous êtes une bonne épouse.
Non.
Écoutez, à qui je demande, voyez-vous, comme un supplément de courage.
Oui.
Il faut que vous engagez votre mari à se mettre au lit sans tarder. Oui, son état est grave, oui, le sommeil lui est absolument nécessaire. Je vous ferai préparer une potion.
Je vous obéis, docteur. Je connais mon mari. Il me faut le soutenir.
Oui, alors, en ce moment, soyez forte pour nous.
Justine.
Mais je suis là, madame. Je ne vous ai pas quittée.
Oh, excusez-moi, ma bonne Justine. Nous devons aider monsieur à regagner sa chambre.
Je vais m'en occuper avec Justine, madame Courtois.
Merci.
Montez devant. Nous vous suivons.
Oh, docteur. Venez, Justine.
Chers parents aimés, pardonnez.
Pauvre Laurence.
Pardonnez, je vous en conjure.
Malheureux enfant.
À votre malheureux.
C'est le père qui est à plaindre. À son âge, un coup pareil, il peut ne pas s'en relever.
J'ai été bien coupable.
J'ai eu comme le pressentiment du malheur qui arrive aujourd'hui.
Comment ça?
Oui. J'avais deviné le secret de Laurence. Malheureusement, je l'ai deviné trop tard.
Mais vous n'avez pas essayé...
Quoi ?
Entraîné par une passion fatale.
En ces circonstances délicates, il faut une circonspection extrême. Et puis, que pouvais-je faire ?
Exemple.
Avertir Courtois, non, évidemment.
Le conseil de ma mère,
il aurait d'ailleurs refusé de me croire. Il est de ces hommes qui ne veulent rien entendre.
Les devoirs les plus...
Que seul le fait brutal peut désabuser.
On pouvait agir auprès du comte de Trémorel.
Il aurait tout nié. Il m'aurait demandé de quel droit je me mêlais de ses affaires. Non, une démarche aboutissait simplement à une brouille avec Courtois.
Mais la jeune fille...
Me jurant un amour
un jour,
éternel,
j'ai essayé de lui parler.
Et qui maintenant m'abandonne.
Sans lui donner à entendre que je savais tout, j'ai tenté de lui montrer l'abîme où elle courait.
Mais qu'a-t-elle répondu ?
Je suis perdue.
Elle a ri. Elle a plaisanté, comme savent rire et plaisanter les femmes qui ont un secret à cacher. Depuis lors, il ne m'a pas été possible de me trouver seul un quart d'heure avec elle. Pourtant, j'étais son vieil ami. Son meilleur ami.
J'aurais cessé d'exister.
Avant que je commette l'imprudence de lui parler. Oui, car cela a été une imprudence, à n'en pas douter.
Et je serais allé loin.
Il ne se passait pas de journée qu'elle ne vint mettre ma serre au pillage. Elle m'avait d'autorité constitué son fleuriste ordinaire. C'est pour elle que j'ai réuni ma collection de bruyères du Cap.
À mes misères.
Non. Je ne peux pas y croire.
Désespoir.
Tiens, vous étiez là, vous, Maître Roblot.
Oui, oui, monsieur le juge. Bien à votre service.
C'est-à-dire que vous nous écoutiez.
Oh, pour ça, non. J'attendais Madame Courtois pour savoir si elle n'a rien à me commander.
Approchez donc, monsieur Maître Roblot.
Monsieur le juge de paix aurait-il par hasard besoin de moi ?
Oh, nullement, en aucune façon. Non, je veux simplement vous féliciter d'être arrivé à temps pour soigner monsieur Courtois. Votre coup de lancette lui a peut-être sauvé la vie.
Ah, c'est bien possible. Mmh.
Monsieur Courtois est généreux. Il reconnaîtra bien un si grand service.
Oh, je ne lui demanderai rien. Je n'ai, Dieu merci, besoin de personne. Qu'on me paye seulement mon dû et je suis content.
Oui, oui, je sais, on me l'a dit. Vos affaires vont bien. Vous devez être satisfait, non ?
Oh, pas tant que monsieur le juge de paix le croit. La vie est bien chère pour le pauvre monde. Et puis, il y a les rentrées, les maudites rentrées qui ne se font pas.
Ah. Cependant, c'est bien vous qui avez acheté le pré Morin au bas de la côte d'Evry.
Ah, oui, monsieur.
Ah, il est bon, le pré Morin, hein ? Bien qu'un peu humide. Heureusement, vous avez de la pierraille dans les pièces de terre que vous a vendues la veuve Frappelle.
Oh, trois méchantes pièces.
Pas si mauvaise que cela, hein? N'avez-vous pas aussi acheté quelque chose à la licitation des mineurs Perron?
Oh, un lopin de rien du tout.
C'est vrai, mais payez comptant. Vous voyez bien, Maître Roblot, que le métier de médecin sans diplôme est assez lucratif.
Ah, pardon. Si je guéris les gens, je ne les fais pas payer.
Ah, c'est donc votre commerce d'herboristerie qui vous enrichit ?
Je gagne passablement ma vie avec les herbes.
Ah, et comme vous êtes un homme d'ordre et d'économie, vous achetez des terres.
Oh, il y a encore les bêtes qui me rapportent assez. Oui, on vient me chercher de plus de 3 lieues. Je soigne les chevaux, les vaches, les brebis.
Sans diplôme.
Oh, ce n'est pas un morceau de parchemin qui fait la science. Je ne crains pas les vétérinaires de l'école, moi. C'est dans les prairies et à l'étable que j'étudie les bestiaux. Ah, sans me vanter, je n'ai pas mon pareil pour l'enfle. Non plus que pour le tournis ou la clavelée.
Et je sais que vous êtes un homme habile et plein d'expérience. Tenez. Le docteur Gendron, chez qui vous avez servi, me vantait il n'y a qu'un instant votre intelligence et votre savoir-faire.
Monsieur le docteur Gendron est bien bon.
Oui, 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 ce cher docteur m'affirmait n'avoir jamais eu un aide de laboratoire aussi entendu que vous. Roblot, me disait-il, a pour la chimie une telle aptitude et tant de goût en même temps qu'il s'entend aussi bien que moi quantité de manipulations extrêmement difficiles.
Ah, dame, je travaillais de mon mieux puisque j'étais bien payé. Et j'ai toujours aimé m'instruire.
Et vous étiez à bonne école chez le docteur Gendron, Maître Roblot ? Oui, il se livre à des recherches très intéressantes. Ses travaux et ses expériences sur les poisons sont surtout remarquables.
Oui, 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 oui. J'ai vu des expériences bien curieuses.
Eh bien, vous qui aimez vous instruire, réjouissez-vous. Le docteur va ces jours-ci avoir un beau sujet d'étude. Et certainement, il vous prendra pour aide.
Je suis toujours aux ordres de mon ancien maître, quand il a besoin de moi.
Il aura besoin de vous, je vous l'affirme. L'intérêt sera énorme, et la tâche difficile. On va, mon brave, on va exhumer le cadavre de Monsieur Sauvresy.
Sauvresy ?
Oui, on exhumera Sauvresy. On soupçonne. La justice a toujours des soupçons. On soupçonne, dis-je,
qu'il n'est pas mort d'une maladie parfaitement naturelle. Alors, on s'est adressé au docteur Gendron. Il a, vous le savez, trouvé les réactifs qui décèlent la présence d'un alcaloïde, quel qu'il soit, dans les matières soumises à son analyse. Tenez, il m'a parlé d'un certain papier sensibilisé.
Je connais les procédés du docteur Gendron.
Oui.
Mais oui. Je ne vois pas sur quoi peuvent porter les soupçons dont parle monsieur le juge de paix.
On a, je pense, mieux que les soupçons. Madame de Trémorel, vous le savez, a été assassinée. On a dû inventorier ses papiers. Et on a retrouvé des lettres, une déclaration des plus accablantes, des reçus. Que sais-je, moi ?
Il faut espérer que la justice fait erreur. Mais je vous prie de m'excuser, monsieur le juge de paix. Madame Courtois ne va probablement pas redescendre et l'on m'attend chez moi. Je suis obligé de partir, je reviendrai demain.
Je vous en prie.
Allez, bonsoir, monsieur le juge de paix. Bonsoir, bonsoir, monsieur.
Bonsoir, maître Roblot.
Cher juge de paix, je vous rends les armes et je m'incline. Bravo. Vous êtes fort comme mon maître. Le grand Tabaret dit tir au clair. Maintenant, je suis sûr qu'à nous deux, nous ferons du bon travail et que nous expliquerons tout.
Je le crois aussi.
Bon, je ne vous ferai pas de cachotterie. Pendant que vous interrogiez si adroitement ce coquin, hein, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai fouiné un peu partout et j'ai trouvé ça.
Un chiffon de papier.
Une enveloppe.
Voyons.
Oui, c'est l'enveloppe de la lettre de Mademoiselle Laurence. Et savez-vous où demeure sa tante, chez qui elle était allée passer quelques jours?
Oh, à Fontainebleau, je crois.
Oui, eh bien, cette enveloppe porte le timbre de Paris, bureau de la rue Saint-Lazare. Je sais que ce timbre ne prouve rien.
C'est toujours un indice.
Non, c'est pas tout. Je me suis permis de prendre la lettre de Mademoiselle Laurence qui était posée sur la table.
Oh, le coq.
Oui, ce n'est peut-être pas fort délicat, mais qui veut la fin? Or, vous l'avez bien lu, cette lettre? L'avez-vous médité? Avez-vous étudié l'écriture? Pesé les mots? Retenu la contexture des phrases?
Oh, mon cher Lecoq! Oh, je ne me trompais donc pas!
Non.
Vous avez eu la même idée que moi!
Oh.
Courtois va mieux!
Ah, bien.
Il dort à moitié. Il s'en tirera.
Bien. Eh bien, nous n'avons plus rien à faire ici. Monsieur Lecoq doit être à demi mort de faim.
Oui, ça c'est vrai.
Alors partons.
Non, vous permettez que je reprenne l'enveloppe?
Oh, bien sûr. Vous la considérez comme une pièce à conviction?
Dame, avec la lettre que j'ai subtilisée... Oh.
Quel métier vous faites?
Vous ne manquez pas de toupet. Oh
non.
S'est-elle suicidée? Écoutez-nous, vous le saurez.
C'était d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman.
Le sixième épisode du crime d'Orcival.
Avec Josette Boulevard, Bruno Balpe, Nathaniel Benchimoun, Jean Coste, Jacques Charby, Serge Grand, Françoise Jacquet, Gérard Martigot, Fred Personne.
Bruitage, Dominique Aubert. Chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique, Claude Niort. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 18 août 1984. Si vous avez manqué les 5 premiers épisodes, un carnage épouvantable, puis des suspects, puis Bonjour Monsieur Lecoq, puis un drame épouvantable, et enfin les certitudes du juge, à vous de les écouter en ligne ou de les télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Le crime d'Orcival, feuilleton d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, c'est à suivre demain à la même heure sur France Culture. Le titre du 7e épisode, Le rebouteux rend visite.